amis, frères et sœurs, nous voici rassemblés dans notre commune humanité, chacun avec sa précieuse singularité. Pour ce temps de culte, pour prendre place ici, nous n'avons rien à prouver, rien à justifier. Notre présence suffit. Chacun, chacune est accueilli ici dans l'inépuisable source de paix, d'amour et de vie que nous nommons Dieu et que Jésus le Christ nous apprend à appeler notre Père. Alors laissons cette source couler au plus profond de nous et entre nous et louons l'Éternel notre Dieu. Je vous invite à vous lever. Je te loue de me surprendre quand je suis habituée, de me reprendre quand je suis égarée et de me prendre quand je suis perdue. Je te loue d'être un Dieu vivant qui se met en quête de l'humain, non pas un Dieu qui demeure, mais un Dieu qui vient. Je te loue d'être moins le but que le chemin, moins le terme que la brèche, moins l'horizon que la marche. Oui, Dieu vivant, tu es vivifiant. Loué sois-tu. Amen. Et nous poursuivrons notre louange avec le chant du psaume 67. Nous chanterons les deux strophes. Que Dieu nous bénisse et nous garde. Je vous invite à prendre place et pour ce culte très raccourci qui précède l'Assemblée Générale, eh bien nous allons entendre la lecture du texte biblique. Et avant de le lire, nous prions. Éternel notre Dieu, nous voici, nous sommes à l'écoute, mais nous n'entendrons rien, nous ne comprendrons rien, si ton esprit ne vienne souffler en nous. Et ouvre notre esprit, notre intelligence, notre cœur et notre vie entière à ta parole. Amen. Je vous propose de lire ce matin le texte de l'Évangile qui est proposé à la méditation des églises en ce dimanche 20 septembre. Un texte de l'Évangile selon Matthieu au chapitre 20, les versets 1 à 16. Jésus parle à ses disciples, peut-être particulièrement à Pierre, qui prétendait pouvoir recevoir plus que d'autres compte tenu du fait qu'il avait tout quitté pour suivre Jésus. Donc voici ce que Jésus, la deuxième partie de la réponse de Jésus. Voici en effet à quoi le règne des cieux est semblable. un maître de maison qui était sorti de bon matin embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec les ouvriers pour un denier par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire, et leur dit « Allez dans la vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la sixième, puis vers la neuvième heure, et il fit de même. Vers la onzième heure, il sortit encore, en trouva d'autres qui se tenaient là, et leur dit « Pourquoi êtes-vous restés ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « C'est que personne ne nous a salariés. »« Allez dans la vigne, vous aussi, leur dit-il. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, pensant recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun un denier. En le recevant, ils se mirent à maugréer contre le maître de maison et dirent « Ces derniers venus n'ont fait qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté le poids du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux « Mon ami, je ne te fais pas de tort. Ne t'es-tu pas mis d'accord avec moi pour un denier ? Prends ce qui est à toi et va-t'en. Je veux donner à celui qui est le dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mes biens ce que je veux ? Ou verrais-tu d'un mauvais œil que je sois bon ? » C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers derniers. Cette parabole, qu'on appelle couramment la parabole des ouvriers de la onzième heure, a retenu, vous pensez bien, toute l'attention des réformateurs, entre les œuvres et la grâce. Peut-être que le débat n'est pas encore clos. En tout cas, Luther y a lu la grâce indépendante des œuvres, et Calvin y a lu l'affirmation de la liberté de Dieu à dispenser sa grâce, le maître de maison étant compris pour l'un comme pour l'autre comme figure de Dieu. Mais je vous propose ce matin d'aborder cette parabole avec une autre question que celle de la grâce, en nous demandant, mais en quoi consiste le travail ? Puisqu'il est question d'aller dans la vigne, qu'il y a un salaire, nous pensons spontanément qu'il y a un travail. Eh bien, le premier indice, qui n'est pas le moindre, c'est que la parabole ne parle absolument pas de travail. À vrai dire, le mot est même complètement absent du texte. Il est bien question d'ouvriers qui attendent, et le récit montre comment tout au long de la journée, il y a des ouvriers qui sont là sur la place sans rien faire. Alors, cela peut faire des dizaines et des dizaines de personnes, un grand nombre d'ouvriers. Et la construction du récit avec ce maître de maison qui sort régulièrement au cours de la journée fait penser que si la journée, au lieu de durer 12 heures, une journée d'activité. Si la journée, au lieu de durer 12 heures, en comportait 20 ou 30 heures, eh bien, il y aurait toujours des ouvriers à attendre là, à la 18e ou à la 29e heure. Et le maître de maison sortirait toujours aussi régulièrement et les enverrait toujours dans sa vigne. Cette vigne est-elle si vaste qu'il n'y a jamais assez d'ouvriers ? Pour pouvoir faire quelque chose. Ce qui est curieux, c'est qu'à ces ouvriers, le maître ne dit pas « Allez travailler dans ma vigne », mais simplement « Allez dans la vigne ». Alors, il est bien aussi question de salaire. Un denier, ce qui correspond au salaire journalier, c'est-à-dire à la somme nécessaire pour vivre une journée. D'ailleurs, à bien lire le texte, le maître de maison ne cherche pas des ouvriers pour les faire travailler, mais littéralement pour les salarier. Alors vous me direz que je pinaille, peut-être, mais il n'est pas question de travail. Et lorsqu'un des ouvriers de la première heure s'offusque de ce qu'il reçoit le même salaire que les ouvriers de la 11e heure, il parle du poids du jour, de la durée, il parle du poids de la chaleur qu'il faut supporter, qui peut varier tout au cours de la journée, mais il ne dit rien d'un poids du travail, de la peine d'avoir sué, transpiré en travaillant. Enfin, il est bien question d'une vigne. Et nous pourrions alors penser au travail de la vigne taillée, vendangée, selon les saisons. Seulement la vigne. La vigne de Dieu, depuis les prophètes de la Bible hébraïque, représente le peuple de Dieu, Israël. Et avec Jésus le Christ, la vigne s'est élargie à toutes les nations, à l'humanité entière. Et dans cette vigne, il n'est pas question de travail. Seulement d'un maître de maison qui envoie dans la vigne autant de gens qu'il en trouve. Autrement dit, la vigne représente un ensemble de personnes auxquelles le maître de maison ne cesse d'ajouter d'autres personnes et tout cela pour leur donner de quoi subvenir à leurs besoins. Non, ce n'est pas pour travailler que le maître envoie les ouvriers dans la vigne, c'est pour leur donner de quoi vivre. Et c'est pourquoi ils reçoivent tous le même salaire, ce denier, ce qu'il faut pour vivre. Parce qu'ils ont tous fait ce que le maître attendait d'eux, ils sont allés dans la vigne. C'est d'une radicalité extrême. Cette parabole exprime une générosité qui ne demande rien en échange. Une générosité qui est celle de Dieu, que la parabole désigne par ce denier, ce qui est nécessaire pour vivre, cette générosité que nous, en Église, nous appelons grâce, parce que c'est ainsi la grâce, c'est en échange de rien, ni de 12 heures, ni d'une heure de travail. Autrement dit, Dieu n'appelle pas les humains à travailler, mais à rejoindre la vigne, l'humanité, en leur donnant de quoi vivre. La parabole déplie ce qui est la vocation de chaque humain, non pas de devoir mériter, même un tout petit peu, mais seulement de vivre de grâce. À la 12e heure, à la fin de la journée, à l'heure du salaire, tous reçoivent la même chose, qui n'est ni une récompense ni une rétribution. La 12e heure, c'est celle de la révélation de l'égalité de tous. Quelle que soit la durée du temps passé dans la vigne, égalité de valeur, égalité de dignité de chacun, égalité qui rend compte de ce que le maître voulait. Et c'est cette égalité qui génère les murmures des ouvriers de la première heure ou des premières heures. Elle est ressentie, cette égalité, comme une injustice profonde, car ce qui est donné et reçu n'est pas proportionnel au temps passé dans la vigne. Le maître de maison fait ce qu'il peut pour faire comprendre à l'un de ceux qui récrimine, un seul, parce que chacun ne peut le comprendre que pour soi, pour faire comprendre, sans priver de quoi que ce soit, la vérité et la réalité de sa bonté, de sa grâce. Et c'est difficile, parce que c'est rude à entendre et à comprendre qu'il n'y ait pas de compte ni de classement, qu'il n'y a pas d'accumulation, ni de performance à afficher, ni de rétribution à attendre, qu'il n'y a pas de comparaison, puisque ce qui compte, ce qui importe, c'est qu'une personne ait répondu à l'appel et soit allée dans la vigne. Et à chacune de ces personnes et à toutes, il est donné ce qui suffit pour vivre en plénitude. Les derniers mots du maître nous aident à le comprendre. Je suis bon. Bon, vous savez, c'est le refrain de la création, c'est le rythme de la création tel que la chante le premier chapitre de la Genèse. Bonté qui n'est ni récompense ni salaire puisqu'elle arrive avant nous. Bonté originelle, bonté première, sur chaque être. Et en ce sens, bonté caractéristique du Créateur, déposée sur la création, elle est indissociable de la source de la vie donnée, de la vie selon la volonté du Maître, on dirait selon la volonté de Dieu, dans le règne de Dieu. Tout commence par la bonté. Tout commence dans la bonté. Entrer dans la création, dans le sens que représente la création, c'est se tenir sous cette bonté originelle, cette bonté première. Et alors ce qui est donné pour vivre à l'un ne manque jamais à l'autre. Ce qui est donné pour vivre aux uns ne fait jamais défaut aux autres. Et cette parabole nous aide à prendre conscience que nous sommes façonnés par une notion de justice proportionnelle qui est à la fois réclamée comme garante d'un ordre juste, mais d'un point de vue humain, et en même temps, nous le savons, constamment débordée par les intérêts personnels. L'égalité de traitement dont fait preuve le maître de maison est ressentie comme une grave injustice, alors qu'elle traduit cette bonté première qui accueille les singularités de chacun, ceux qui attendaient depuis la première heure ou ceux qui attendaient à la 11e heure. Cette bonté qui leur offre sans partialité ce que l'humain a besoin pour le devenir. Cette égalité qui n'est soutenue par aucun critère objectif de notre point de vue, mais par la divine volonté que chacun reçoive ce qui est nécessaire, cette divine bonté originelle. Et voilà qui bouleverse les humaines considérations de quantité et qui défait les systèmes et les assurances au profit. Et au profit de quoi, en fait? Nous qui lisons la parabole, arrivés à la fin du récit, à la dernière heure, à la 12e heure, celle de la révélation de la bonté de Dieu, nous comprenons que cette dernière heure de la parabole, eh bien, devient la première heure pour nous. La première heure du jour suivant, celui qui est raconté, mais d'un jour nouveau, d'un jour à vivre. Et nous comprenons que quelle que soit l'heure, quel que soit le moment où nous en sommes dans notre existence, chacun reçoit ce dont il a besoin de grâce, d'esprit, de parole, de Christ, de vie, sans avoir besoin de compter ni de comparer. Et nous pouvons comprendre que la parabole nous accompagne, comme un miroir posé devant nos murmures, quand nous retombons dans la logique de la justice proportionnelle vis-à-vis d'autrui, comme vis-à-vis de nous-mêmes, quand nous cherchons à nous rassurer, à nous assurer par notre sagesse, par notre droiture spirituelle ou morale, ou quand nous craignons d'en manquer. La parabole nous replace sans nous condamner devant notre vocation afin que nous l'entendions un peu plus, un peu mieux. Elle nous rappelle l'appel reçu à prendre place dans l'humanité pour y vivre de bonté, y vivre, pour reprendre encore les mots de Genèse 1, à l'image de Dieu, le Dieu bon. Et chacun de nous, pour lui-même, en lui-même et avec d'autres, chacun de nous est capable de trouver la manière dont cet appel le rendra présent, présent, là où il est. Amen. Et sans transition, je vous invite à partager les annonces. Alors, bien sûr, vous savez que dans quelques minutes commencera l'Assemblée Générale de l'Association Cultuelle de l'Église Protestante Unie de Paris-Bastille, Foyer de l'Âme. et que cette assemblée nous permettra cette année d'avoir aussi bien les comptes rendus de l'année 2019 que l'élection du conseil presbytéral de notre église locale. Aujourd'hui aussi, en ce moment même, a lieu à l'église catholique de la paroisse voisine de Notre-Dame Espérance l'installation du nouveau curé de la paroisse qui s'appelle Antoine Guggenheim et qui, dans les échanges que j'ai eus avec lui cette semaine, est tout à fait enthousiaste à l'idée de venir découvrir et de rencontrer la paroisse du Foyer de l'Âme, dont il a beaucoup entendu parler en bien par son ami, l'ami qui était pour lui Bernard Cotteret. Aujourd'hui, cet après-midi encore, il y a une autre installation, alors ce sera un culte cette fois-ci. C'est le culte d'installation du nouvel inspecteur ecclésiastique de la région luthérienne de l'Église unie, région parisienne luthérienne. À Paris, on a encore deux régions, une réformée et une luthérienne, dont le pasteur Laz Nomenjahari a été élu au dernier synode luthérien et sera donc installé cet après-midi. Dans la semaine, mardi 22, à 12h30, aura lieu dans le temple, dans une des galeries, la pause biblique. Alors, une pause biblique un peu exceptionnelle, puisqu'elle nous permettra de terminer, rapidement, le parcours commencé en 2019 et que le confinement a interrompu, comme beaucoup d'autres choses. Donc, il y aura une dernière séance sur le thème de la résurrection, mardi 22, et nous choisirons également le thème de la prochaine année, donc de cette année, et qui débutera dès octobre. Il n'y aura pas de repas, bien sûr, à cette pause biblique qui commencera à 12h30, donc un peu plus tard que d'habitude. Jeudi 24, comme tous les jeudis, de 12h30 à 13h30, la pause spirituelle se tiendra dans le temple, donc un temps de silence, de lecture d'un texte biblique, de partage très simple autour de ce texte. Même si on n'a jamais lu la Bible, si on ne connaît pas le texte, il n'y a aucune difficulté, c'est vraiment un partage d'existence et puis de prière. Et dimanche prochain, le 27, le culte sera présidé par Valérie Laubry, et ce sera aussi la première séance d'école biblique et de précaté pour les enfants de la paroisse. Et puis vous dire aussi que vous ne repartirez pas sans emporter un exemplaire du numéro de septembre d'Évangile et Liberté que notre ami Michel Pourteau distribuera à la sortie. Si vous avez déjà reçu la revue, eh bien offrez-la à quelqu'un. Et si vous ne l'avez pas reçue, eh bien lisez-la. Vous y trouverez des choses fort intéressantes. Est-ce qu'il y a d'autres annonces à partager ? nous rassemblons dans la prière d'intercession avec cette actualisation de la prière du Notre Père. Éternel Dieu, notre Père, que ton nom retentisse si fort sur notre terre que nous reconnaissions ta présence parmi nous. Que ton règne d'amour et de joie vienne réchauffer tes enfants pour déloger l'angoisse, la souffrance, le péché, et éveiller la reconnaissance, la solidarité, le souci des uns envers les autres. Que ta volonté qui s'est manifestée dans le Christ soit faite aussi à travers nos efforts de justice, de partage, de paix, à travers nos engagements quotidiens. Donne-nous aujourd'hui notre pain, notre part d'affection, notre part de force pour vivre et répandre la bonne nouvelle sans partialité, notre part de confiance et de fidélité, même dans les tempêtes de notre temps. Pardonne-nous nos offenses, comme nous essayons aussi de pardonner les offenses de ceux qui nous blessent, nous ignorent ou ne savent pas nous aimer. Ne nous soumets pas à la tentation de l'égoïsme, de la passivité, de la facilité, de la jalousie, de l'évasion, mais délivre-nous du mal qui s'incruste dans le monde et en nous-mêmes. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique 272, « Ô mon Père, ma prière ». Recevez la bénédiction de la part de Dieu. L'Éternel vous bénit et vous garde en son amour. L'Éternel vous regarde avec bonté et vous accueille favorablement. L'Éternel vous manifeste sa bienveillance et vous donne la paix. Amen.